Maison des esclaves, une visite bouleversante. Une fois arrivés sur l'île de Gorée, nous sommes immédiatement captivés par cet endroit qui exerce un charme et une fascination pour chaque visiteur qui sillonne ses rues étroites et paisibles. Cependant, cette île idyllique préserve la mémoire d'une histoire tragique. On a accepté d'échanger des humains contre la pacotille. Cabo Alioune, guide à la maison des esclaves. Les Portugais ont été les premiers à arriver sur l'île, qui était un centre de transit, géographiquement très avancé sur les côtes sénégalaises, donc plus facile d'accès aux Américains par exemple. La particularité de cette île reste un lieu enclavé où les esclaves étaient emprisonnés par la mer. Le Sénégal regorge de richesses agricoles et minières et d'une main-d'œuvre pas chère. La motivation de la traite négrière était donc économique. Sur l'île de Gorée, il y avait 28 maisons qui accueillaient 250 esclaves répartis en fonction de leur âge et de leur sexe. Leur destination dépendait de leurs acquéreurs. Lorsqu'ils quittaient Gorée, ils perdaient leur nom et prenaient le nom de leur propriétaire. Les descendants d'esclaves ne portaient donc pas leur nom africain. Il reste aujourd'hui une seule maison conservée à l'identique, la maison des esclaves, qui propose des visites commentées de 9h à 18h pour 500 francs CFA, moins d'un euro. Cette maison est devenue le symbole de cette période douloureuse dans l'histoire de l'esclavage. La maison a deux niveaux. Les colons vivaient à l'étage pendant que les esclaves étaient entassés comme du bétail en dessous. Ce niveau est devenu une exposition permanente relatant la chronologie de l'esclavage. Cabo Alioune, le guide, nous captive tout au long de cette visite par ses explications et ses précisions. Tout le monde est captivé par la manière dont il nous raconte sans filtre les erreurs qui ont eu lieu entre ces murs. La cellule des hommes. 15 à 20 hommes étaient enchaînés au sol et au mur par le cou et les bras, presque nus. Les conditions d'hygiène étaient mauvaises, causant des maladies respiratoires comme la pneumonie. Les critères de sélection dépendaient de la force physique, de la productivité au travail. Plus un esclave est costaud, plus il est cher. La cellule des enfants. Les enfants étaient très convoités pour les travaux qui nécessitaient de petites mains, comme les récoltes de coton, de fruits et légumes, mais aussi de tabac. Les enfants de bons géniteurs, soit de parents forts, en bonne santé et productifs au travail, sont considérés comme de bonne qualité. La cellule des jeunes filles. Les colons avaient le droit de coucher avec les filles esclaves et ainsi, elles avaient une semi-liberté. La cellule pour inaptes temporaires. Cette pièce était réservée aux hommes de moins de 60 kg pour y être engraissés. On leur donnait du niébé, haricots, produit sur l'île. La cellule des récalcitrants. Comme son nom l'indique, cet endroit était réservé aux rebelles. Une cellule située sous chaque escalier où on ne peut pas tenir debout. Pour l'anecdote, la visite de Nelson Mandela fut marquée par son émotion lorsqu'il est rentré dans cette cellule. La grande cellule des récalcitrants. Ici, on y a enfermé des malades pour des cas de pneumonie. Dues aux conditions d'hygiène mauvaises et d'un fort taux d'humidité, de nombreuses personnes mouraient, certaines étaient fusillées. Les cadavres étaient jetés à la mer, ce qui attirait les requins. La cellule des femmes. C'est la seule cellule qui a été modifiée afin d'en faire une pièce dédiée à la documentation. Les travaux sont toujours en cours. Petit rappel historique. Les esclaves n'étaient pas achetés mais troqués. Un enfant pouvait valoir un collier. Le produit de l'échange variait d'un continent à un autre. Les bateaux venaient chargés de matières premières en arrivant en Afrique. Ils étaient échangés. Puis, ils partaient en direction de l'Amérique du Sud avant de rentrer aux États-Unis. Le triangle était bouclé. Après la visite, Cabo Alioune nous précise que l'esclavage n'a jamais été violent, mais coutumier en Afrique. Certains chefs africains ont collaboré avec les Européens, mais sous la contrainte. Leur commerce a duré pendant 4 siècles, dont l'objectif était de diviser pour mieux régner. Il explique en rajoutant que les Européens ont ramené les armes à feu pour diviser les peuples africains. Certains ouvriers étaient même échangés contre des armes. Toutes les tribus qui refusaient étaient vulnérables. Ils étaient donc contraints d'adhérer, collaborer, sinon elles étaient éliminées pour être remplacées par quelqu'un de plus coopératif. Aujourd'hui, ce système existe encore. Nombreux aussi sont les chefs qui ont refusé leur siège car ils refusaient l'exploitation de la richesse de leur peuple. N'oublions pas que le pillage des richesses africaines n'aurait pas persisté si certains Africains n'avaient pas collaboré. Il finit en rajoutant « Aujourd'hui encore, le continent africain est immensément riche, cependant la majorité croupit dans la misère totale. Autrefois, on avait le pillage des ressources humaines et aujourd'hui on prend l'or, les diamants. C'est ça la traite négrière du XXIe siècle. Un esclavage moderne, bien sûr, mais sous une autre forme. »